Qui était Socrate? Socrate, 470-399 avant Jésus-Christ, est sans doute le personnage le plus énigmatique de toute l'histoire de la philosophie. Il n'écrivit pas une seule ligne. Et pourtant, il fait partie de ceux qui ont eu le plus d'influence sur la pensée européenne. Sa mort, qui survint dans des conditions dramatiques, y a aussi largement contribué. Nous savons qu'il était né à Athènes et qu'il passa le plus clair de son temps à s'entretenir avec les gens qu'il rencontrait dans la rue ou sur la place du marché. « Les arbres à la campagne ne peuvent rien m'apprendre », avait-il coutume de dire. Il avait aussi la faculté de rester plusieurs heures plongé dans ses pensées. Déjà de son vivant, il passait pour quelqu'un de très mystérieux, et à sa mort, il fut considéré comme le fondateur d'écoles de philosophie pourtant très différentes entre elles. Son mystère et son ambiguïté permettaient en effet à ses diverses directions philosophiques de se réclamer de lui. Il était laid comme un pou, on sait au moins ça, petit et gros, avec des yeux globuleux et un nez retroussé. Mais intérieurement, on disait de lui qu'il était merveilleux. Ou encore, on aura beau chercher dans le passé ou le futur, jamais on ne trouvera quelqu'un comme lui. Cela ne l'empêcha pas néanmoins d'être condamné à mort à cause de son activité philosophique. La vie de Socrate nous est surtout connue grâce à Platon, qui fut son élève et devint lui-même un des plus grands philosophes de l'histoire. Platon écrivit plusieurs « dialogues » ou « conversations philosophiques » en se servant de Socrate comme porte-parole. Quand Platon place des propos dans la bouche de Socrate, nous n'avons aucun moyen de savoir si Socrate a réellement tenu ses propos. Aussi est-il difficile de distinguer l'enseignement de Socrate des paroles de Platon lui-même. Ce problème se pose chaque fois que l'on ne possède aucune trace écrite de la personne historique, ce qui arrive plus fréquemment qu'on ne croit. L'exemple le plus célèbre est évidemment celui de Jésus. Comment être sûr que le Jésus historique a effectivement prononcé les paroles que Matthieu ou Luc lui prêtent? Nous nous retrouvons dans le cas du Socrate historique face à une énigme de ce genre. Mais au fond, savoir qui était réellement Socrate n'est pas si important que cela. C'est avant tout l'image de Socrate transmise par Platon qui a inspiré les penseurs occidentaux pendant 2500 ans. L'art du dialogue. Le secret de l'efficacité chez Socrate réside en ce qu'il ne cherchait pas à enseigner aux gens. Il donnait au contraire l'impression qu'il voulait apprendre de la personne avec qui il s'entretenait. Il ne faisait pas un cours comme un vulgaire professeur. Au contraire, il discutait. Certes, il n'aurait jamais été un philosophe célèbre s'il s'était uniquement contenté d'écouter les autres. Mais il n'aurait pas été condamné à mort non plus. En réalité, il posait surtout des questions au début. De cette façon, il faisait semblant de ne rien savoir. Puis, au cours de la conversation, il s'arrangeait pour que l'autre découvre petit à petit les failles de son raisonnement. À la fin, son interlocuteur se retrouvait tellement coincé qu'il était obligé de distinguer le vrai du faux. On raconte que la mère de Socrate était sage-femme et qu'il comparait sa pratique philosophique à la maïeutique, l'art de faire accoucher. En effet, ce n'est pas la sage-femme qui met au monde l'enfant. Elle est seulement là pour apporter son aide lors de la naissance. De même, la tâche de Socrate consistait à faire accoucher les esprits de penser juste. La vraie connaissance ne peut venir que de l'intérieur de chacun. Personne ne peut vous l'asséner. La vraie connaissance vient de l'intérieur. Je tiens à préciser, mettre un enfant au monde est quelque chose de naturel. De la même manière, tous les hommes peuvent accéder aux vérités philosophiques s'ils consentent à se servir de leur raison. Quand un homme se met à raisonner, il puise en lui-même les réponses. En faisant celui qui ne sait rien, Socrate obligeait précisément les gens à réfléchir. Socrate savait faire l'ignorant, ou du moins passer pour plus bête qu'il n'était, et c'est ce qu'on appelle l'ironie de Socrate. Il restait ainsi en mesure de déceler les faiblesses dans les raisonnements des Athéniens. Une telle scène se produisait souvent au beau milieu du marché, c'est-à-dire en public. Rencontrer Socrate, c'était courir le risque d'être tourné en ridicule et devenir la risée de la foule. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner si certains finirent par le trouver dérangeant et irritant, surtout ceux qui détenaient un certain pouvoir dans cette société. « Athènes est comme un cheval paresseux », déclarait Socrate. « Et moi, je suis comme un temps qui essaie de le réveiller et le maintenir en vie. » Et que fait-on d'un temps, Sophie? Peux-tu me le dire? Une voix divine. Ce n'était toutefois pas dans le but d'importuner ses concitoyens que Socrate leur mordait constamment les jarrets. Il était poussé par quelque chose qui ne lui laissait aucun choix. Il affirmait entendre en permanence une voix divine en son for intérieur. Socrate protesta par exemple quand on lui demanda de participer à la condamnation à mort de concitoyens. De même, il refusa de divulguer les noms d'opposants politiques. Cela finit par lui coûter la vie. En 399, il fut accusé d'introduire de nouveaux dieux et de corrompre la jeunesse. À une très faible majorité, il fut reconnu coupable par un jury de 500 membres. Il aurait pu demander sa grâce. Il aurait au moins pu sauver sa peau s'il avait accepté de quitter Athènes. Mais s'il l'avait fait, il n'aurait pas été Socrate. Il plaçait sa conscience et la vérité plus haut que sa propre vie. Voilà tout. Il affirmait n'agir que pour le bien social. Et il fut condamné à mort. Il vida peu après une coupe de poison en présence de ses plus proches amis. Il tomba à terre et mourut. Pourquoi, Sophie? Pourquoi Socrate devait-il mourir? Aujourd'hui encore, la question reste posée. Mais il n'est pas le seul homme à s'être écarté du chemin traditionnel et à l'avoir payé de sa vie. J'ai déjà cité Jésus, et il existe beaucoup d'autres points communs entre Jésus et Socrate. Je vais juste t'en citer quelques-uns. Jésus et Socrate furent tous deux considérés comme des personnages énigmatiques par leurs contemporains. Aucun d'eux ne laissa de traces écrites de son message, ce qui nous rend entièrement dépendants de l'image que leurs disciples nous ont donnée. Nous savons pourtant que tous deux étaient experts dans l'art du dialogue. Ils parlaient tous deux avec une telle assurance qu'on tombait immédiatement sous le charme, ou au contraire, qu'on en était irrité. Et surtout, tous deux se sentaient l'intercesseur auprès des hommes de quelque chose de plus grand qu'eux. Ils provoquaient l'ordre établi en critiquant l'injustice et l'abus de pouvoir sous toutes leurs formes. Et détail non négligeable, cela leur coûta la vie. Les procès de Jésus et de Socrate présentent également de troublantes ressemblances. Tous deux auraient pu demander d'être graciés et avoir la vie sauve. Mais ils se considéraient investis d'une mission à laquelle ils auraient failli en n'allant pas jusqu'au bout. Le fait qu'ils affrontèrent la mort avec un calme et une dignité extraordinaire eut pour effet de rassembler des milliers de fidèles après leur mort. Si je souligne ces similitudes, ce n'est pas pour dire qu'ils se ressemblent, mais parce que tous deux avaient un message à délivrer, indissociable de leur courage personnel. Un joker à Athènes. Ah, Socrate, on n'a pas fini de parler de lui, comme tu vois. Nous avons évoqué sa méthode, mais qu'en est-il exactement de son projet philosophique? Socrate a vécu en même temps que les sophistes. Comme eux, il s'intéressait davantage à l'homme et à la vie humaine qu'aux problèmes posés par la philosophie de la nature. Un philosophe romain, Cicéron, déclara quelques siècles plus tard que Socrate fit descendre la philosophie du ciel jusqu'à terre et qu'il la laissa vivre dans les villes, entrer dans les maisons, en contraignant les hommes à réfléchir à la vie, aux mœurs, au bien et au mal. Mais Socrate se différenciait des sophistes sur un point essentiel. Il ne se considérait pas comme un sophiste, c'est-à-dire une personne cultivée ou savante. C'est pourquoi, à la différence des sophistes, il refusait d'accepter de l'argent pour son enseignement. Non, Socrate se disait philosophe au vrai sens du terme. Un philosophe signifie celui qui cherche à atteindre la sagesse. Au fait, es-tu bien assise, Sophie? C'est important pour la suite du cours que tu saisisses bien la différence qui existe entre un sophiste et un philosophe. Les sophistes acceptaient de l'argent en échange de leurs commentaires plus ou moins subtils, et de tels sophistes ont existé de tout temps. Je pense notamment à tous ces professeurs et autres donneurs de leçons qui sont soit parfaitement satisfaits du peu qu'ils savent, soit se vantent de connaître un tas de choses dont ils n'ont en réalité pas la moindre idée. Tu as certainement dû déjà rencontrer quelques-uns de ces sophistes dans ta jeune vie. Un vrai philosophe, Sophie, c'est tout à fait autre chose. C'est en fait tout le contraire. Un philosophe est conscient qu'il sait au fond fort peu. C'est la raison pour laquelle il essaie sans cesse d'atteindre la vraie connaissance. Socrate était un de ces êtres exceptionnels. Il était conscient qu'il ne savait rien de la vie et du monde. Et avant tout, il souffrait vraiment de cette ignorance. Un philosophe est donc quelqu'un qui reconnaît comprendre fort peu de choses et qui en souffre. Vu sous cet angle, il fait davantage preuve d'intelligence que ceux qui se vantent de tout connaître. La plus intelligente est celle qui sait qu'elle ne sait pas, t'ai-je déjà dit. Socrate, lui, affirma qu'il ne savait qu'une chose, qu'il ne savait rien. Retiens bien cette formule, car cet aveu est rare, même chez les philosophes. C'est d'ailleurs même si dangereux de le déclarer publiquement que tu peux le payer de ta vie. Ce sont toujours ceux qui posent des questions qui sont les plus dangereux. Répondre, ce n'est pas si compromettant. Une seule question peut être plus explosive que 1000 réponses. As-tu entendu parler des habits neufs de l'empereur? Il était en fait nu comme un ver, mais aucun de ses subordonnés n'osait le faire remarquer. Et tout à coup, un enfant s'écria qu'il était tout nu. C'était un enfant courageux, Sophie. Comme lui, Socrate osa dire tout haut à quel point nous autres hommes savons peu de choses. Nous avons déjà souligné combien les enfants et les philosophes se ressemblent. Soyons plus précis. L'humanité est confrontée à un certain nombre de questions qui n'offrent aucune réponse satisfaisante. Nous avons alors le choix. Soit se tromper soi-même, ainsi que le reste du monde, en faisant semblant de connaître ce qui se doit d'être connu, soit se fermer aux grands problèmes et abandonner définitivement tout espoir de progresser. L'humanité se divise ainsi en deux parties. En gros, les hommes font semblant de tout savoir, ou bien ils sont tout bonnement indifférents. Ces deux genres d'hommes rampent et se traînent tout au fond de la fourrure du lapin. Rappelle-toi. C'est comme partager un jeu de cartes en deux, chère Sophie. D'un côté les cartes noires, de l'autre les rouges. Mais de temps à autre surgit un joker, c'est-à-dire une carte qui n'est ni cœur ni trèfle, ni carreau ni pique. Socrate était un de ces jokers à Athènes. Il ne prétendait pas tout savoir et il n'était pas non plus indifférent. Il savait seulement qu'il ne savait rien. Et cela ne faisait pas son affaire. Alors, il devint philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui ne laisse pas tomber, quelqu'un qui inlassablement cherche à atteindre la vraie connaissance. On raconte qu'un Athénien interrogea l'oracle de Delphes pour savoir qui était l'homme le plus intelligent d'Athènes. L'oracle répondit que c'était Socrate. En entendant cela, Socrate fut pour le moins étonné. Je crois bien que ça l'a plutôt fait rire. Il alla tout de suite en ville trouver un homme qui passait à ses propres yeux et aux yeux des autres pour quelqu'un de très intelligent. Mais cette personne fut incapable d'apporter une réponse satisfaisante aux questions que lui posa Socrate, et ce dernier dut admettre que l'oracle avait peut-être raison. Il importait à Socrate de trouver une base solide pour notre connaissance. Selon lui, cette base résidait dans la raison de l'homme. Sa foi dans la raison de l'homme fait de lui un rationaliste. Une juste vision des choses conduit à une action juste. J'ai déjà mentionné le fait que Socrate prétendait entendre une voix divine en lui et que cette conscience lui disait ce qui était juste. Celui qui sait ce qui est bien fera aussi le bien, répétait-il. Pour lui, une juste vision des choses conduit à une action juste. Seul celui qui fait ce qui est juste est un homme juste. Quand nous agissons mal, c'est parce que nous sommes dans l'erreur. C'est pourquoi il est si important de parfaire ses connaissances. Socrate tenait à définir clairement et une bonne fois pour toutes ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Contrairement aux sophistes, il pensait que la faculté de discerner entre le bien et le mal se trouvait dans la raison de l'homme et non dans la société. Tu as peut-être du mal à digérer tout cela, Sophie. Je fais une nouvelle tentative. Pour Socrate, il était impossible d'être heureux si l'on agissait contre ses convictions. Et qui sait comment être heureux fera tout pour l'être. C'est pourquoi celui qui sait ce qui est juste fera aussi ce qui est juste. Car quel homme souhaite être malheureux? Et toi, qu'en penses-tu, Sophie? Peux-tu vivre heureuse si tu fais sans cesse des choses que tu sais très bien, en ton fort intérieur, ne pas être juste? Il y en a beaucoup qui passent leur temps à mentir, voler et calomnier les autres. Eh bien, tu ne penses pas qu'ils savent néanmoins parfaitement que ce n'est pas bien, que ce n'est pas justifié, si tu préfères? Crois-tu que cela les rende heureux? Socrate, lui, ne le croyait pas. Quand Sophie eut achevé la lecture de la lettre sur Socrate, elle la rangea vite dans la boîte et sortit de sa cabane. Elle voulait être à la maison quand sa mère entrerait des courses afin de ne pas avoir à dire où elle avait été. D'ailleurs, elle avait promis de faire la vaisselle. Elle venait de faire couler l'eau quand sa mère fit irruption avec deux énormes sacs de provisions à la main. À peine avait-elle posé ces sacs qu'elle lança. « Tu n'es vraiment pas dans ton état normal en ce moment, Sophie. » Sans trop savoir pourquoi, Sophie répondit du tac au tac, « Socrate non plus. »« Socrate ?» Sa mère écarquillait les yeux. « C'est seulement dommage qu'il ait dû expier ça par sa mort, » poursuivit Sophie profondément plongée dans ses pensées. « Écoute, Sophie, je ne sais vraiment plus quoi penser. » « Socrate non plus. Il ne savait qu'une chose, et c'était qu'il ne savait rien du tout. Il était pourtant l'homme le plus intelligent d'Athènes. » Sa mère resta sans voix. « C'est quelque chose qu'on t'a appris à l'école ?» se hasarda-t-elle à demander. Sophie secoua énergiquement la tête. « Oh, c'est pas là-bas que j'apprends quelque chose. Tu vois, la grande différence entre un professeur d'école et un vrai philosophe, c'est que le professeur croit connaître un tas de choses qu'il n'arrête pas de vouloir faire apprendre de force à ses élèves. » Alors qu'un philosophe essaie de trouver des réponses aux questions qu'il se pose avec ses élèves. Ah, tu veux encore parler de cette histoire de lapin blanc? Tu sais, il me tarde de rencontrer ton petit ami. Je commence vraiment à croire qu'il est un peu bizarre. Sophie s'arrêta un instant de faire la vaisselle et se tournant vers sa mère, la brosse à la main. Ce n'est pas lui qui est bizarre. Il est comme la mouche du coche qui essaie de déranger les autres, pour les obliger à sortir de leur petit train-train mental. Bon, ça commence à bien faire. Mais pour qui il se prend, celui-là? Sophie baissa la tête et se remit à faire la vaisselle. Ce n'est ni un savant ni un petit prétentieux. Il aimerait simplement accéder à une vraie connaissance. C'est ce qui fait toute la différence entre un vrai joker et les autres cartes du jeu.
Tu as dit un joker ?
Sophie fit signe que oui et enchaîna. Est-ce que tu ne t'es jamais demandé pourquoi il y a autant de cœurs, de carreaux, de trèfles et de piques dans un jeu de cartes ? Mais seulement un joker ?
Mais enfin, qu'est-ce que tu me chantes là ?
Et toi alors, avec tes questions ?
Sa mère avait fini de ranger ses achats. Elle prit son journal et passa dans le salon.
Sophie eut l'impression qu'elle claquait la porte derrière elle avec une certaine violence. La vaisselle terminée, elle monta dans sa chambre. Elle avait rangé le foulard rouge en soie tout en haut de l'armoire à côté du Lego. Elle alla le chercher et l'examina attentivement. Hilde.